Prions. Seigneur, accorde-nous les oreilles des disciples pour entendre ta parole. Un cœur, Seigneur Dieu, pour saisir les mystères de ta grâce. Et accorde-nous les yeux de l'esprit pour contempler la puissance de ton amour. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, plaçons-nous en mode écoute. Il y aura des choses que vous avez l'habitude d'écouter ou d'entendre. Il y aura des choses qui vont vous faire ouvrir les yeux sur certaines réalités spirituelles. Depuis 3 semaines, l'Esprit de Dieu tourne autour du service. Nous avons, quelques dimanches en arrière, procédé à la mise en place de la structure qui gouverne l'Église. Le dimanche dernier, c'était le dimanche de la vocation, où nous avons eu à intervenir sur le livre de Élie et de Élisée, comment Dieu a appelé Élisée au ministère. Et aujourd'hui, je veux parler du service. Le service de Dieu, mais de Dieu le Père. Ça change tout. Si Dieu est mon Père, le service que je suis appelé à accomplir n'est pas un service d'un mercenaire. C'est un service de la fille et du fils de la maison. Mais il y a des conditions pour qu'un service pour Dieu soit un service efficace, qui produise des effets, des services que Dieu accepte. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Un temps d'attention est nécessaire, parce que la vie de l'âme vient de l'écoute. Quand Dieu veut parler à son peuple, il dit Israël, écoute. Et souvent, quand Dieu met le doigt sur certaines de nos fragilités, de nos faiblesses, c'est qu'il est en train de vouloir travailler à y remédier. Et tout dépend de notre attitude. Comment nous recevons la parole de Dieu. Donc, avant que vous me lapidiez, écoutez d'abord le message de Dieu avec attention. Nous allons lire le texte de la parole. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le et non pour les hommes. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux esclaves qui avaient des maîtres. Et comme ils sont tous devenus des chrétiens, ces esclaves, ils pensent que leurs maîtres étaient des non-chrétiens, donc ça ne vaut pas la peine de leur donner le service qu'il faut. Ça nous arrive parfois. Faut-il obéir à des patrons non-chrétiens ou pas? Et c'est de ça dont l'apôtre Paul est en train d'en parler. Et nous allons y revenir. Le texte suivant, je vais le lire à travers mon texte. C'est Jean chapitre 13. Nous avons partagé cela à la pastorale. Et je vais lire le tout et écouter le contexte. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens et qui était dans le monde les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon, Pierre qui lui dit, « Seigneur, non, toi Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point part avec moi. » Et Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. mais il est entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous, car il s'agit de Judas dont il veut parler. Il connaissait en effet celui qui le livrait, c'est pour qu'il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le maître et le seigneur, et vous dites bien car je le suis. Et si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Et le dernier, c'est dans le livre des Philippiens, ce verset vous commencez à connaître déjà, car c'est le verset sur lequel je m'appuie pour exercer mon ministère. Et en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Je disais tantôt que quand Dieu commence à nous révéler nos lacunes, c'est qu'il attend de travailler pour y remédier. Ce travail que fait Dieu consiste en enlever les couches du vieil homme crucifié. Lorsque nous venons au Seigneur, nous nous identifions à lui. C'est que la mort de Jésus est ma mort. Sa crucifixion est ma crucifixion. C'est que je suis mort avec lui. Cependant, il existe une réalité dans la vie de chacun d'entre nous, c'est que il subsiste encore les réflexes du faux moi. Le moi ancien, bien qu'il est mort, mais il continue à réagir par réflexe. Et c'est ce faux moi qui étouffe parfois la croissance du nouveau moi qui a envie d'émerger, mais qui se retrouve ratatiné, coincé, comprimé, brimé. Et on ne parvient pas à dégager le parfum de Christ. L'homme nouveau est étouffé. Et il est empêché de s'exprimer dans sa croissance pour le service pour Dieu. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour les êtres humains, dit la parole du Seigneur. Et si la question revient à savoir, qu'est-ce que signifie servir Dieu? Vous vous êtes posé cette question? Qu'est-ce que signifie servir Dieu? Où et comment? C'est pour ça qu'un texte dans le livre de Nombres disait ceci. C'est Dieu qui parle aux Lévites qui avaient été choisis pour exercer un service dans le temple. C'est un sacerdoce particulier. Et Dieu leur va de leur dire ceci. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce dans votre famille et dans votre entourage. Pur don. C'est Dieu qui parle. L'exercice du sacerdoce est pur don. Et souvenez-vous dans 1 Pierre chapitre 1, verset 9 ou 2-9, que Dieu a fait de nous un peuple particulier. Une nation, un sacerdoce royal, un peuple de sacrificateurs, pour nous et pour tous nos descendants. Alors que veut dire servir Dieu? C'est faire vivre la vérité de Christ en nous. Il consiste à se laisser transformer par sa parole restauratrice. Et nous sommes dans le contexte d'un remodelage. Quelque chose d'ancien est en train d'être détruit et Dieu est en train de refaire quelque chose de nouveau, y compris par la parole. Servir Dieu, c'est faire vivre la vérité de Christ au sein du milieu dans lequel l'on vit. Et où est-ce qu'on vit? Dans notre maison, pour une maman à l'égard de ceux de sa famille, pour un papa à l'égard de ceux de sa famille, pour des enfants à l'égard des parents et dans le milieu dans lequel nous sommes appelés à évoluer, c'est-à-dire un lieu professionnel ou alors simplement le prolongement de notre vie de maison, c'est-à-dire l'Église. Et j'insiste à ce niveau. L'Église n'est pas un endroit neutre. L'Église, c'est le prolongement de chez vous. C'est que si vous aimiez que votre chez vous soit propre et décoré et bien propre, un lieu hospitalier, cet effort, vous devez le consacrer pour l'Église, puisque c'est le prolongement de cela. Si vous avez une famille dont vous prenez soin, vous veillez à ce que les membres de votre famille soient dans un bien-être, l'Église est pareille. Et si nous le faisons, je peux vous avouer, nous allons créer un contexte qui fait que l'Église va grandir et nous aurons hâte de venir à l'Église. On ne marchera pas à reculons. On ne viendra pas de manière perlée aux réunions, mais on va même en multiplier parce que nous y trouvons un intérêt de restauration. L'apôtre Paul dit, en toute chose est une expression qui englobe à la fois des tâches agréables et celles qui le sont moins. Des tâches que nous avons l'habitude de dire honorables et des tâches que nous disons subalternes. Ainsi, Paul exhorte les chrétiens à considérer tout type de travail comme un service rendu à qui ? Au Seigneur Jésus. Ne voyez pas la personne à qui vous rendez le service. Parce que Dieu peut nous demander de rendre service à quelqu'un qui nous veut du mal, à quelqu'un qui veut même nous tuer. Alors l'actualité en parle en suffisance, mais si je rentre, je risque de ne pas sortir de mon message. Faire du bien à quelqu'un, c'est faire du bien à Jésus, même si c'est votre ennemi. Et c'est pourquoi la Bible a dit que nous devons le faire, comme si nous le faisons pour le Seigneur. Et parce que l'acte que nous posons n'est pas inutile, il n'est pas vain. Il y a un retour de récompense. Faites-le comme vous le faites pour le Seigneur. Et à ce niveau, il y a une loi spirituelle qui se met en route. C'est ce qu'on appelle la loi de la semaille et de la moisson. C'est-à-dire quand vous faites du bien à quelqu'un qui ne le mérite pas, mais c'est à vous que vous faites du bien. Quand vous pardonnez quelqu'un, quand Dieu vous le demande, hey, écoutez bien, ce n'est pas pour lui la personne. S'il le prend, tant grâce pour lui. Mais s'il ne le prend pas, le bien que vous avez semé revient vers vous. Si vous pardonnez quelqu'un, ce n'est pas la personne qui devait recevoir. S'il est digne, tant mieux. Mais s'il n'est pas digne, c'est que ça revient vers vous. Vous êtes en train de semer de bonnes choses. Voilà pourquoi la Bible a dit que nous ne devons pas nous venger nous-mêmes, mais laisser le Seigneur faire. Et si quelqu'un t'a fait du mal, rends-lui le bien. C'est une façon de vous extraire de la prison de l'esprit et vous placer dans la présence de Dieu pour obtenir sa grâce. Voyez-vous ? On a tendance à se dire qu'un chrétien n'est pas un crétin et on ne va pas se laisser faire. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Pardonnez. Même si on a l'air de vous passer pour un rien, pardonnez. Faites du bien. Posez de bons actes. Ne vous lassez pas de faire le bien car vous récolterez au moment convenable. Et si nous voulons que notre vie soit meublée des grâces du Seigneur, commençons à en semer. Alors j'en viens à un autre texte, celui de Jean. Mais avant le texte de Jean, Jésus est en train de parler à ses disciples et en train de les mettre en garde, après avoir observé les valeurs derrière lesquelles les gens du monde courent. Et dans le chapitre de Luc, chapitre 24, verset 24, et je le lis simplement, « Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune ou le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Ah, servir. Ce mot qu'on n'entend pas dans notre monde. Et pourtant, c'est les conditions de la grandeur. La vie de Jésus-Christ, c'est la vie de service. Jésus a quitté le ciel de gloire dans lequel il a été établi. Lui qui dispose de toutes choses. Parce que nous l'avons lu, que la Bible a dit que Dieu lui a remis toutes choses entre ses mains. Toutes choses. Alors pour comprendre l'ordre de grandeur, Jésus est la parole. Et la parole était à l'origine de la création de toutes choses que nous voyons dans nos yeux physiques. Mais la parole a créé des choses que nos yeux physiques ne voient pas. Le monde spirituel est un monde qui est beaucoup plus vaste, très vaste, que le monde physique dans lequel nous sommes. Et tout cela a été créé par Jésus. Et entre le monde physique et le monde spirituel que nous ne voyons pas, il y a un pont qui nous relie. Et ce pont, c'est la parole de Dieu. Ce pont, c'est la parole. Et la parole de Dieu, elle est créatrice. Alors le monde recherche la notoriété, recherche la domination. Jésus va leur dire que mais les gens que vous respectez, ceux que vous considérez comme étant les plus grands, n'est-ce pas ceux-là qui vous rendent la vie difficile? Ils auraient pu être votre serviteur, mais ils ne le sont pas. Ces grands-là vous ont transformé en serviteurs et c'est eux, comme disait un sage de notre pays. Vous les présidents, on s'aperçoit que c'est vous qui roulez les dernières voitures. Ce que mange votre chien, même le dernier de votre peuple, ne le mange pas. Mais un vrai roi est celui qui mange après avoir fait manger tout le monde. Même s'il te reste un os, tu manges. Voilà ce que Jésus est en train de faire. En quelque part, je brosse les traits pour que vous compreniez cela. Quelle est l'intention du monde? Il nous a servis. Il nous envoie nos enfants à la guerre pour protéger leur fauteuil. Il nous impose, il nous faut la poche avec les impôts. Et tu gagnes de l'argent, tu sais, mais bon, ça va. Et ceux-là, vous les considérez comme des plus grands et ils vous asservissent. Mais vous, qui n'en sois pas ici, celui qui est le plus grand au milieu de vous doit être celui qui vous sert. Et donc, le royaume de Jésus-Christ, c'est un royaume de service. Nous aspirons tous à la grandeur. C'est pas faux. C'est un sentiment que Dieu a donné. Le péché l'a comprimé. Et il a voulu tendance à se manifester comme un œuf qui, à maturité, a envie de sortir de sa coque pour vivre. Mais il faut que ça soit dans l'ordre établi par le Seigneur. On ne sort pas pour vivre indépendamment de Dieu, pour dépendre de lui. Mais cependant, la vraie grandeur, selon Christ, n'est pas une question de réalisation personnelle, même si c'est nécessaire. Mais c'est une question d'attitude venant d'un cœur pur. C'est pourquoi servir est une question de mentalité que de service. Oui, c'est une question d'attitude venant d'un cœur pur, un cœur entier, d'un esprit renouvelé qui aspire à vivre pour Dieu, rien que pour Dieu et pour les autres. Parce que celui qui est mûr dans la foi, il n'est plus égocentrique. Celui qui est mûr dans la foi, il ne cherche pas les choses pour lui. Celui qui est mûr dans la foi, il ne vit plus pour lui, il vit pour les autres. Voilà une des dimensions dans laquelle le Seigneur nous conduit. C'est un chantier. C'est un chantier. Quand on devient chrétien, on ne dort pas sur ses lauriers. Non, non, non. On est en activité. Alors ces passages nous invitent individuellement à nous donner tout entier à Dieu, au point de nous identifier à sa volonté sur terre, sans désirer la gloire qui lui revient. Alors si nous revenons à notre scène de Jean chapitre 13, elle retrace les dernières heures de Jésus, la dernière nuit que Jésus a passée sur terre avec ses disciples, avant sa trahison et les souffrances qu'il va endurer. Alors il a posé cet acte pour donner trois leçons sur lesquelles je vais revenir brièvement. Premièrement, pour montrer à ses disciples à quel point il les aimait. Quand on aime quelqu'un, on se donne à fond. Et c'est le dernier instant. Jésus n'a plus une minute sur la terre des hommes pour exprimer l'amour qu'il a pour ses disciples. Et il va faire un geste qui va retourner l'attention de tout le monde, même y compris Pierre, qui ne comprenait pas. Parce qu'il n'a pas l'habitude, mais il va comprendre par la suite. Ça, c'est le premier point. Montrer à ses disciples qu'il les aimait. La deuxième leçon, c'est pour annoncer qu'il allait offrir sa vie en sacrifice sur la croix. Et si Jésus offre sa vie en sacrifice sur la croix, pour que nous puissions le rejoindre dans l'œuvre qu'il accomplit, il faut que nous tous nous passions par la croix. Nous ne pouvons pas vivre la vie de Jésus ressuscité sans passer par la croix. Il y a des gens qui veulent vivre une vie de résurrection en enjambant la croix, en enjambant la mort. Qui dit résurrection dit sortir de la mort. Et il faut mourir. Mais pas demi-mort, mort entier. La troisième leçon, c'est qu'il veut communiquer une vérité selon laquelle il a appelé ses disciples à se disposer à être au service des uns et des autres. Nous sommes diacres les uns des autres. Le désir passionné de grandeur avait continuellement tourmenté les disciples. Souvenez-vous, qui est le plus grand? Ils sont en train de disputer. Et Jésus va prendre un enfant, il va faire la démonstration. Le désir de plus grand a toujours tourmenté les disciples. Alors le maître voulait qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que leur désir d'être supérieur et honoré au-dessus de leurs semblables est contraire à l'esprit du Seigneur. Et en fait, trois leçons se dégagent fondamentalement. Et c'est cela que je voudrais que nous retenions ce matin. Premièrement, Jésus a exprimé un renoncement. La Bible a dit que celui à qui le Père avait remis tout entre ses mains, et lui-même qui est venu de Dieu, et vers Dieu il retournera, c'est celui-là qui a renoncé à ce qu'il avait, ce qu'il était, le statut qu'il avait. Il a pris la condition d'un serviteur, ici dans le sens originel c'est d'un esclave. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains, et il a été reconnu comme un simple homme. Alors ici, le mot « forme » s'applique dans les deux sens. La forme, c'est une forme physique, ronde, carrée ou triangulaire. C'est ce que nous voyons. Mais ici, le mot « forme » en matière de serviteur prend sa source ici. On est serviteur par mentalité, pas par action. Quand Jésus a pris la forme d'un serviteur, c'est dans la mentalité, tout a pris là. D'où renouvellement de l'esprit. D'où renouvellement de l'esprit. Et l'avantage que quand c'est dans le domaine de l'esprit que nous sommes libres dans le service, l'amplitude par laquelle Dieu va nous utiliser est sans limite. Il peut nous utiliser pour les moindres tâches qu'il peut nous utiliser pour les choses beaucoup plus grandes. L'apôtre Paul est capable de se faire tout à tous, aux plus petits comme aux plus grands. À ceux qui sont les moins instruits, comme à ceux qui caracolent dans la philosophie, il est capable de les attraper. Parce qu'il y a eu une amplitude de service. Et quand on est comme ça, on est libre. Parce qu'on fait les choses pour Dieu. Se compartimenter dans un service, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Être capable d'être entre ses mains. C'est ce qu'on appelle être disponible. Dans l'histoire chrétienne, Dieu est descendu pour remonter. Et dans toute vie chrétienne, elle suit le V. Tu es dans tes hauteurs, Dieu te fait descendre dans la fosse, il te travaille et après tu remontes. Moïse, c'est pareil. Saül, c'est pareil. Jésus, c'est pareil. Si vous refusez de descendre dans la fosse, vous ne remonterez pas dans la gloire. Il faut accepter les humbles tâches. Et Jésus est le champion dans les humbles tâches. Les tâches que personne ne veut faire, lui, il le fait. Et il le fait avec joie. C'est pourquoi la Bible a dit que celui qui ne renonce pas lui-même ne peut appartenir au royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que le renoncement? C'est l'action d'abandonner quelque chose, de cesser de rechercher ce à quoi on tenait tant. On s'en détache. Je peux même aller beaucoup plus loin. C'est même abandonner ses droits. Ah oui. Abandonner ses droits. Ah, dans ce monde où tout le monde réclame le droit, c'est difficile. Mais oui, c'est ce que je nous demande. C'est une attitude vertueuse qui pousse à sacrifier les satisfactions personnelles en vue d'une plus grande perfection morale. Le renoncement devrait être un acte spontané et non forcé. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez à être transformé par le Seigneur, ce qui est ancien, ça va tout seul. Comme une chenille qui était dans un état particulier, dont le mode d'alimentation est particulier, et qui finalement rentre dans un chrysalide et qui ressort complètement un papillon avec une mode d'alimentation complètement différente. Il ne fait pas un effort pour abandonner sa peau de chenille. Ça vient tout seul. Et donc, si nous continuons à être accrochés aux choses du passé, c'est que nous n'avons pas complètement détaché, nous ne sommes pas morts pour attraper ce que Jésus nous a donné. Si nous sommes mûrs, réellement mûrs, si nous avons compris que Jésus-Christ est l'excellence des choses que nous pouvons avoir, on ne peut pas regretter ce que nous avons abandonné. Ça vient tout seul. L'apôtre Paul a dit, ce qui était pour moi, qui était une richesse, qui était important aux yeux de Dieu, je l'ai considéré comme une perte. Mais le mot est beaucoup plus fort que ça. Plus qu'un déchet. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Pas à cause de Christ, mais à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Vous voyez les raisons pour lesquelles la parole de Dieu est toujours à notre disposition pour que nous connaissions qui est le vrai Jésus. Si nous avons la vraie connaissance de Christ, nous avons la vraie connaissance du vrai Dieu le Père. Parce que le mot Dieu, c'est un mot élastique, hein? On met tout ce qu'on veut là-dedans. Oui, je l'aurais dit encore, parce que cette phrase est importante. C'est pourquoi lorsqu'une personne ne connaît pas la valeur ou l'importance du sacrifice de Jésus à la croix, le renoncement total nécessaire sera un véritable fardeau pour lui. Il se débat pour se débarrasser de mauvaises habitudes, alors que ça ne doit pas l'être. Ça doit être tout seul. La preuve en est qu'il se débat, il abandonne par la force humaine de volonté, et après il le reprend. C'est pour ça que le renoncement est exigé. Pour un service chrétien efficace, diaconie efficace, le renoncement est exigé. Ça nous libère de nous-mêmes et ça donne toute la place au Saint-Esprit. Ça nous libère de notre vieux moi et ça donne la place à la nouvelle version de vous en Jésus. L'ancienne version est déjà passée et une nouvelle version de vous qui apparaît en Christ. Et c'est cette nouvelle version qui doit être au service de Dieu. Ça, c'est le premier point, le renoncement. Le reste va aller vite. Une des qualités pour un service efficace, c'est l'humilité. Ah, l'humilité. L'humilité, l'une des vertus cardinales de la vie chrétienne. Elle est souvent considérée aux yeux du monde comme une faiblesse. Mais c'est la meilleure manière pour nous d'exprimer notre amour pour Dieu. Être humble. Car l'humilité se rattache à la personne de Dieu. C'est dire que sans elle, il est impossible d'être saint. S-A-I-N-T. Sans l'humilité, on ne peut pas être saint. La sainteté vient de l'humilité. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est uni à Jésus-Christ. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Et il a été reconnu comme un simple homme. L'humilité. C'est l'une des vertus cardinales du royaume de Dieu. Le diable est reconnu pour son orgueil, mais le Seigneur est reconnu pour son humilité. Voilà pourquoi le roi, on l'appelle le roi, non ? Jésus. Mais le roi, serviteur. Est-ce que vous avez vu cette alliance de mots-là assez bizarre ? C'est quand vous prenez le chaud, vous mélangez avec le froid en même temps. Vous prenez l'huile, vous mélangez avec de l'eau. Vous prenez le ciel, vous mélangez avec la terre. Vous prenez l'humain, vous le mélangez avec ce qui est divin. Mais Jésus, il est roi, roi serviteur. Il est à la fois le lion, et il est quoi? C'est pas l'agneau? Mettez lion et l'agneau ensemble, mettez-les face à face, vous allez voir ce qui va se passer. Mais Jésus est capable de lier les deux. Il est à la fois le sacrificateur par excellence, et en même temps, il est la victime. C'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et en même temps, il est le souverain sacrificateur. Mais c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Incarner cette alliance de mélange-là, qui est impossible aux yeux des hommes, mais possible pour le chrétien. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, cela est possible. Le roi serviteur, qui devait être servi, et celui qui va se lever, il a dit, quelle est la belle leçon que je peux donner à ces... Il a dit, tiens, il est allé chercher une bassine, il a mis de l'eau dedans. Vous savez qu'au Proche-Orient, les gens marchent, ils marchent, leurs pieds couverts de poussière. S'il y a un endroit le plus sale du corps humain, c'est les pieds. Alors, Jésus est allé prendre une bassine remplie d'eau. De l'eau, oui. Bassine, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est allé chercher un linge, une serviette. Il s'est ceint les reins avec. Et quand on lit dans la parole de Dieu, c'est ceindre. La Bible nous demande de nous ceindre de la vérité, qui est la partie la plus fragile de l'être humain. Si vous faites du judo, je sais qu'il y a des gens qui font du judo, je ne sais pas, mais si vous voulez renverser votre adversaire, si vous avez 30 kilos et que lui, il en a 100, la meilleure façon de le renverser, prenez-le au milieu. Mettez votre main là dans la ceinture, alors il tombe. Ah, il ne résiste plus. Tu le fais décoller, ça y est, tu le fais tomber. Et beaucoup de chrétiens en matière de vérité se font soulever par le diable et ils se trouvent par terre. Jésus a pris le linge, pas un linge troué, parce que le linge troué ne peut pas bien sécher les pieds. Un bon linge, bien moltonné. Et il a commencé le service. Ça retourne complètement l'attendement de tout le monde. On ne voit jamais ça dans la terre des hommes, ces pauvres disciples. Mais maître, c'est toi le roi, c'est toi le maître. C'est quoi cet acte que tu fais? Et ça, c'est Pierre qui a dit, ah non, 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 non. Moi, tu ne me toucheras pas les pieds. J'ai écrasé les scorpions avec mes sandales, je fais n'importe quoi. Toi, tu es bon, non, tu ne me touches pas les pieds, parce que mes pieds ne sont pas bons à être touchés. C'est par amour qu'il le fait pour son maître, par égard. Mais un égard qui est charnel, ce n'est pas spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit que tu ne comprends pas Pierre. Toi, t'es-tu, tu ne comprends rien. Alors, si tu ne veux pas que je te toucherai pas, mais tu n'auras pas part avec moi. Après, Pierre a réfléchi, il dit, ah, si tel est le cas, non, 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 non. Non seulement, tu ne me laveras les pieds, mais tu me laveras toute la tête aussi. Et il a compris. Et Jésus a dit, si je suis maître, je fais ça pour vous, faites-le de même entre vous. Travail pratique. Nous, en France, on est excellents dans les théories. Moi, j'ai étudié en France, mais je crois qu'on étudie la théorie. Après, quand on va faire la pratique, il n'y en a pas beaucoup. Tu passes 14 années sur les bancs de classe. Après, tu vas passer 6 mois dans une boîte et après, on dit que tu travailles. Mais c'est l'inverse qui doit se faire. On est bourré de théories en Europe. Et ça, c'est la culture gréco-romaine. Hein. On aime le verbiage. Des gymnastiques et sport national. Mais Dieu aime la pratique. Allez, faites de même. Un troisième point, avant de terminer. Si, je crois que je le termine. Le trois points. La fidélité. Ah ouais, fidélité. Alors, les ménages se cassent à cause de l'infidélité. Mais l'infidélité n'est pas que dans les ménages. L'infidélité se manifeste là où il y a une sorte de contrat. Parfois des contrats moraux, des contrats non écrits. Vous êtes dans une forme de contrat. Vous êtes affilié à l'église évangélique réformée d'Alès. Pas ailleurs. Si Dieu aurait aimé que vous soyez ailleurs pour apprendre à grandir, il l'aurait fait. Mais si le Saint permet qu'ici soit votre poulailler, et que c'est là, on doit vous donner des graines à manger, Dieu sait ce qu'il a donné hier. Vous avez mangé de la vitamine D, aujourd'hui il faut un peu de la vitamine C pour éviter de tomber dans le kwashiorkor. Et Dieu vous nourrit. Mais si vous quittez, vous allez de gauche à droite, vous manquez beaucoup de choses. Dieu tient compte de ces éléments. Ce n'est pas rien. On a toujours tendance à dire que le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Quand les gens qui commencent à dire que le Saint-Esprit m'a dit, je me méfie. Ce n'est pas que le Saint-Esprit ne le parle pas. Mais les gens veulent se dédouaner au nom de Dieu pour avoir de l'autorité en disant que c'est l'Esprit qui m'a dit de faire ceci. Mais l'Esprit est contraire à la parole de Dieu. Et dans la fidélité, il y a des petites tâches à accomplir. Petites tâches. C'est une grande chose que d'être fidèle dans les petites choses. Car c'est par les petites choses que les grandes se maintiennent. C'est quelquefois les petites choses qui embellissent l'existence et procurent le bonheur. Je peux vous avouer. Les grandes choses, on n'a pas l'occasion de les avoir tout le temps. Ah, dites-moi. Vous avez quelle occasion dans la journée pour faire les grandes choses? Par contre, il se pose des petites choses que vous devez poser comme acte. C'est là que Dieu vous demande d'être fidèle. Parce que si vous êtes fidèle dans les petites choses, il vous donnera les grandes. On ne peut pas aborder les grandes choses sans pour autant être fidèle dans les petites choses. Détrompez-vous. Si tu veux être un directeur général, c'est une bonne chose. Mais avant d'être un directeur général, comme le mot l'indique, il va falloir que tu fasses le service. Service technique, service financier, service de personnel, tous les autres services. Et comme ça, quand tu es directeur général, tu as un regard sur tout. On ne te fait pas signer les fiches comptables avec des erreurs en moins ou en plus. Tu sais le décoder. Et dans l'œuvre du Seigneur, c'est très important. Construire le royaume de Dieu à travers mes actes a un grand prix aux yeux de Dieu. C'est pour qu'elle a dit, attention, prenez garde à la façon dont vous bâtissez l'œuvre de Dieu. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. Et souvent, les grandes occasions se cachent dans les petites occasions. Ah oui. J'aurais pu vous raconter des histoires que j'ai vues et que j'ai vécues, où on m'a raconté comment des gens qui aspirent à de hautes places de responsabilité ont été piégés simplement en leur demandant de faire un truc subalterne, nul. Et quand tu refuses de le faire, on dit que non, tu n'as pas les qualités. Mais celui qui est capable de le faire, il est capable de faire les plus grands. Ne négligez pas les petits détails, là. Même pour le travail. Parfois, on sait, on connaît vos capacités. On sait que vous êtes capable. Mais le directeur de ressources humaines, il va te dire que tiens, prends ce balai, cette serpillière-là. Tu vas dans les chiottes. Mais si tu dis que quoi, mon diplôme, je l'ai eu, bac plus 10, comment tu peux me donner d'aller dans les trous comme ça? Bon, c'est tranquille. Vas-y. Mais si tu acceptes et tu y vas, là, c'est quelqu'un. Ne perdons pas de vue. N'oublions pas que la fidélité est toujours récompensée par le Seigneur. Alors je termine. La vie chrétienne est faite de discipline et de fermeté. Dieu veut nous mener à un niveau élevé de maturité spirituelle, où le désir de travail de chacun n'est plus de vivre pour soi-même, mais de chercher à vivre pour les autres. Notre vocation, c'est le monde. Et au milieu de cette confusion générale, venons à Dieu pour recevoir sa vision. Tiens, il y a un autre élément que j'ai oublié. L'autre œuvre de la chair, c'est la susceptibilité. Quand on est trop susceptible, on n'est pas libre. La susceptibilité, c'est le langage de la chair, le langage mortel. Il faut que Dieu nous en délivre. Ainsi, chacun peut faire vivre le Christ en lui, dans nos maisons, dans les milieux familiaux, à l'église, dans le lieu de profession. Et demandons au Seigneur les mêmes sentiments qu'il a animés lorsqu'il était venu sur la terre. C'est un combat. La vie chrétienne est une bataille. Détrompez-vous quand on vous dit que quand vous croyez en Jésus-Christ, tout serait clean. Et vous n'avez pas à vous bagarrer. Vous vous trompez. Chaque pas, c'est une bataille. C'est une guerre, mes amis. Et si on ne sait pas se bagarrer, on ne se mettra jamais debout. Dieu n'a pas dit que tu ne tomberas pas, tu tomberas. Mais la faiblesse, c'est que tu refuses de te lever. Tombe, relève-toi, pleure un coup, Dieu te viendra à ton secours. Si tu ne peux pas, tu le cries de toute ton âme, il le fera. Et c'est à ce prix que nous allons gagner le royaume de Dieu. Tous les enseignements qu'on vous a donnés, que tout est lignifiant, tout est rapide, les évangiles à l'eau de rose, le Seigneur m'a dit de vous le dire clairement, que les temps vont être très durs. Et si vous n'êtes pas bien carapacé, vous n'êtes pas bien charpenté, vous tomberez. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu nous donne la force d'avancer. Il y a un air nouveau qui souffle pour notre Église. Il y a une porte que le Seigneur a en train d'ouvrir. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Et ce n'est pas n'importe qui va aborder. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Et Dieu veut que nous soyons solides. Soyez bénis enfants du Seigneur. Dieu n'attend que les occasions pour nous bénir. Et sur ce message ce matin, ne le renvoyez pas vers moi, parce que chaque fois que je donne un message puissant, on m'attrape à la porte, on me dit que tu aurais dû dire ça, on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ça. Le texte, il est là. Celui qui n'a pas compris, je lui redonne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.